Denis qui est en relâche, Véro, Audrey et Max qui sont avec vous et se joignent à nous en direct de Calgary, notre ami Pierre-Aud, pour qui c'est une journée qui aurait pu être plus échevelée, mais disons qu'avant même qu'on lui parle, il y a une bombe qui est tombée dans cette journée des échanges. Tu sais, quand Brad Marchand quitte les Browns, puis Denis n'est pas là, puis qu'en plus, il s'en va chez les Panthers que Denis déteste. Quel magnifique timing. Pierre-Aud, merci de te joindre à nous.
Bonjour Véro, bonjour Audrey, salut Max, salut tout le monde avec nous à Boulevard 102.1. Très heureux de vous retrouver parce que là, c'est un moment parfait. Depuis 16 minutes, l'heure limite est maintenant passée, mais comme tu le sais par expérience, Véro, oui, on en a au moins pour une heure, sinon un peu plus, pour compléter le traitement des avis de transactions qui doivent être déposés auprès de la Ligue nationale. Alors, tant et aussi longtemps que les avis, que les papiers officiels ont été déposés avant 15 heures, heure de l'Est, il n'y a pas de problème. La transaction va se concrétiser si tout est en règle. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre présentement. Et Marc avait eu le filon quelques minutes avant 15 heures. Marc avait eu le filon à propos de Brad Marchand. Et ça va dans le sens de ce qu'on commence à regarder du côté des Bruins de Boston. C'est qu'on est réaliste maintenant. Comme on l'est à Pittsburgh avec les Penguins, dans une certaine mesure, on est réaliste maintenant. Il faut passer à autre chose.
On lâche prise sur les séries, là. Ouais.
Oui, et on lâche prise aussi sur là où en est l'équipe. Les Bruins le savent très bien. Il y a 2 ans, sous Jim Montgomery, c'était l'équipe record, tu te rappelles?
Oui.
Mais c'était pas vraiment réaliste complètement là, sur le plan de la composition de l'équipe. Tu sais, il n'y a rien en valeur absolue dans le hockey, Véro. Il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de positions où tu es en relation avec tes adversaires. Et je pense que les Bruins ont surfé là-dessus, les Penguins ont surfé là-dessus pendant un bon bout de temps, mais là, on est réaliste. Et Denis, il avait abordé, pauvre Denis, je ne sais pas comment il se sent aujourd'hui.
On pense à lui. Parce que le fait de perdre Brad Marchand, je pense qu'il était prêt à cette éventualité-là. Un petit peu plus tôt cet après-midi, Max nous avait dit « Ah, ça pourrait être les Golden Knights. » OK, fine, mais les Panthers de la Floride, qui ont été l'ennemi des Bruins lors des dernières séries, disons que ça risque d'y faire mal.
Bien, c'est énorme. Puis la question que je posais en onde à RDS à Marc tantôt, je comprends que Mathieu Tkachuk est blessé, puis Mathieu Tkachuk, on ne sait pas exactement l'étendue de sa blessure. Mm-hmm. Mais même s'il ne revient qu'en série, la question à Marc, c'est est-ce qu'il y a assez de place dans le vestiaire des Panthers pour Mathieu Tkachuk et pour Brad Marchand? La réponse, c'est oui, bien sûr. Parce que Brad Marchand, c'est d'abord et avant tout un athlète professionnel, comme tous ceux qui changent de camp aujourd'hui, particulièrement ceux qui s'en vont avec des équipes gagnantes et ceux des équipes qui aspirent à se rendre jusqu'en finale de Coupe Stanley. C'est pas très long que tu oublies ton chandail tatoué sur le cœur ou ton logo tatoué sur le cœur, puis tu adoptes celui de ta nouvelle équipe pour tenter de les transporter le plus loin possible. Et je suis convaincu que Brad Marchand va faire la même chose. Alors, tu as raison, c'est la dernière bombe, si tu veux, entre guillemets. Mais si tu me permets, Véro, de revenir sur le fait qu'aujourd'hui, ça a été plutôt lent, c'est que cette saison... c'est-à-dire le déclenchement des opérations de transactions a commencé aussitôt que le 6 décembre 2024. Et ça a commencé par les Rangers de New York qui s'en allaient nulle part. Les Rangers s'en allaient frapper l'iceberg en plein milieu de l'océan. Et avec la pression du propriétaire des Rangers sur le directeur général Chris Drury, qui lui-même est très difficile à comprendre et très difficile à saisir, il a lancé le débat en échangeant son capitaine Jacob Trouba aux Ducks d'Anaheim. Et ça a donné le ton, je pense, à toute une série de transactions. Les autres directeurs généraux ont fait, bon, 6 décembre, pas le 6 mars, pas le 6 février. Le 6 décembre, il y a des équipes qui commencent leur mutation. Et les Rangers ont été les premiers. Et l'Avalanche du Colorado a suivi après. Et j'enlève rien au Rantanen à Dallas, à Marchand en Floride. J'enlève rien aux autres grandes transactions aujourd'hui, mais les mutations les plus importantes auront été du côté de l'Avalanche, les anciens Nordiques, et du côté des Rangers de New York.
Est-ce que c'est ça qui explique qu'à l'heure où on se parle, particulièrement dans l'Est, on est en course aux séries depuis le mois de janvier pratiquement? Donc, suite à tous ces échanges-là, on dirait que déjà la majorité des équipes avaient trouvé son noyau. Le Canadien, tu nous le confirmes, n'aura pas bougé d'ailleurs avec les transactions. Il y en a tellement qui peuvent accéder aux séries. Pourquoi faire des échanges à ce moment-là?
Ben, c'est-à-dire que ta question est bonne au sens large. Moi, personnellement, je ne me rappelle pas la dernière saison où j'ai vu un tel resserrement dans le format actuel des séries. Mm-hmm. Je ne parle pas de la bonne vieille époque des quatre équipes qui rentraient dans les divisions et là, tu avais tes 16 équipes. Pour moi, le format le plus juste, c'est celui qu'on a présentement et donc le plus révélateur. Donc, je persiste et signe, il y a longtemps que je n'ai pas vu un tel resserrement dans l'Est, à tout le moins. C'est sûr que ça a dicté le déploiement des choses. Et c'est sûr qu'il y a des équipes qui se disent « Ah oui, mathématiquement, on est encore dans le mix, entre guillemets. » Voyons donc, on le sait très bien chez les Pingouins, on le sait très bien chez les Flyers, on le sait probablement très bien chez les Islanders aussi. Alors, sans enlever et éliminer ces équipes-là présentement, je pense qu'on est réaliste. On regarde où on est, on regarde le calendrier qui s'en vient, Véro, c'est extrêmement important. Et ça, ça dicte une chose. C'est le Canadien, j'ai fait des calculs hier qui ne sont pas scientifiques, puis ce n'est pas nécessairement la grande révolution, mais tout est à la hausse chez le Canadien. Le nombre de victoires à pareille date, après 62 matchs, le différentiel but pour but contre qui a fondu comme neige au soleil, les unités spéciales qui sont tout à fait légitimes, surtout l'infériorité numérique, et j'en passe, et j'en passe. Le Canadien n'était donc plus à l'étape où tu dis on part à zéro puis on met plein de choses en banque. Mm-hmm. Tu te dis OK, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut avoir en retour de ce qu'on a? Et ce qu'on a en retour nous aide-t-il maintenant que la fondation, le solage est fait et qu'on peut bâtir par-dessus?
Tu parles de solage. Donc, on a solidifié cette semaine aussi en signant Jake Evans. Il faisait partie des morceaux qui étaient peut-être dans le doute, puis ça a confirmé le fameux noyau que tu nous disais qui tient à rester à Montréal.
Bien sûr. Et les gens qui vont me parler de Kirby Doc, l'énigme de Kirby Doc. Est-ce que c'est un vrai deuxième centre? Est-ce qu'Owen Beck peut faire le travail présentement? J'en ai beaucoup parlé avec Marc. Oui, Dvorak est sans contrat, joueur autonome cet été. Ben justement, ce sont des choses que tu dois cibler cet été.
Pas là, là.
Pour l'instant, pas là, exactement. Ce n'est pas le moment de venir toucher à ce noyau-là. Et ce que la direction, la haute direction, vient de faire, c'est de dire à l'entraîneur Martin Saint-Louis et à cette unité, cette chimie qu'il y a au sein du groupe, je répète, Véro, que je n'ai pas vu depuis très longtemps chez le Canadien, on comprend, on va vous laisser tel quel, amusez-vous pour rester dans le mix le plus longtemps possible.
Ça veut-tu dire que toute la période de reconstruction, c'est derrière nous, c'est terminé?
Non, parce que j'ai parlé du solage, Audrey, puis on est pas mal en train de solidifier le rez-de-chaussée aussi.
OK. Il manque encore peut-être le deuxième étage.
Oui, mais quand je parlais de l'été, je vais aller plus loin que ça. Je vais parler de l'été, mais je vais parler du camp d'entraînement aussi. Parce que, dans le fond, c'est là qu'il faut se rendre. Il y a un surdoué qui s'appelle Demidoff qui s'en vient. Et j'écoute encore tous mes collègues, et Bob Hartley, qui connaît très bien la KHL, a tous les échos positifs et unanimes que ça va être un surdoué qui va s'amener avec le Canadien. Qu'est-ce qu'on va ajouter ensuite? On va ajouter des gars de Laval. Logan Mailloux va-t-il avoir progressé? Rainbacher sera en santé complète, on l'espère, au camp d'entraînement du mois de septembre. Donc, tu ne penses pas seulement à la date limite d'aujourd'hui. Tu ne penses pas seulement au 1er juillet des joueurs autonomes. Tu ne penses pas seulement au repêchage où il y a beaucoup de transactions qui se concluent au mois de juin. Tu penses déjà à ton camp d'entraînement. Puis, il y a certainement des noms que j'ai oubliés là-dedans. Mais tu penses certainement à ton camp d'entraînement du début de septembre.
On a vu, Pierre, que c'était un marché quand même de vendeurs cette année, des gros prix pour des joueurs autonomes à venir, des joueurs de location. Est-ce que tu as l'impression que ça a pu être tentant quand même de Kent Hughes? T'sais, je sais pas s'il y a eu des solides offres sur la table pour des Yoel Armia, pour des Evans avant son contrat, pour des même Dvorak, pour David Savard. Penses-tu que ça a pu tenter à un certain moment de dire « OK, ouais, je veux pas toucher à mon groupe, mais cette offre-là est tentante solide? »
Ah, c'est très possible, Max. Ceci dit, au moment où je vous parle, Kent Hughes est probablement en train d'expliquer tout ça. Alors, c'était le moment que j'avais pour vous. Je suis désolé. J'aurais aimé vous parler un peu plus tard, mais j'aurais d'autres obligations. Mais tes questions sont très pertinentes. Maintenant, je répète ce que je te disais ou ce que je disais un peu plus tôt. qu'est-ce que ça donne d'accumuler encore des choix de repêchage pour le Canadien de Montréal, Max? Réponds à ma question. T'es déjà ces choix-là. T'es déjà ces choix-là. Tu identifies déjà tes joueurs en dehors de la boîte. En dehors de la boîte, c'est des mid-off. En dehors de la boîte, c'est des joueurs à Laval qu'on verra au camp d'entraînement. Mais je vais en rajouter. Dans quelques années, c'est Jacob Fowler devant le filet. C'est Michael Hage comme joueur de centre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as passé cette... T'es pas au-dessus de tes affaires, comme le veut l'expression. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu as passé l'étape de devoir tout mettre ces options en banque parce que tu as déjà jeté tes jetons sur de très, très, très bonnes bases. Et tu dois, à un certain moment, laisser le temps à ces jetons-là que tu as jetés sur la table de commencer à rapporter éventuellement. Et c'est, je pense, là où en est le Canadien. Et ça explique probablement l'inertie d'aujourd'hui.
Puis à partir de ce moment-là, moi, aujourd'hui, j'aurais aimé ça, voir Kent Hughes aller chercher, tu sais, pas surpayer un joueur de location puis lancer un choix de première ronde, mais un genre de Luke Conan qui a coûté un choix de quatrième ronde aux Blue Jackets de Columbus, c'est peut-être le genre de move que j'aurais aimé voir Kent Hughes faire aujourd'hui, lancer un message à ton vestiaire, juste un petit message, « Hey, savez-vous quoi? Vous l'avez mérité. Je vous aide. Je vous envoie un petit renfort. » Est-ce que toi, t'aurais aimé ça, Pierre, voir ce genre de petite transaction?
Luke Conan, c'était un des premiers choix de marque. On en a beaucoup parlé ensemble. C'était un des premiers choix de marque. On avait beaucoup ciblé aussi Nico Sturm. Ce sont des joueurs qui auraient eu une place au sein du Canadien. Mais à quel prix, Max? C'est ça. Parce que tu as parlé d'un marché de vendeurs. Tu as tout à fait raison. Regarde ce qu'on a donné pour Cody Glass. Un choix assez élevé au repêchage. On ne parle pas là, d'un trophée Hart, là, Cody Glass, quand même. Donc, il y a tout ça aussi. Quel est le prix? Et je vais aller plus loin que ça. Si tu dis à ton équipe, je vous fais confiance, puis tu commences à donner beaucoup trop pour un joueur comme Luke Cunningham, comme pour Nico Sturm, quel genre de message t'envoies à tes joueurs? T'envoies en même temps un message un peu empoisonné. Bien sûr qu'on aurait accepté ces joueurs-là, puis bien sûr que si on avait pu avoir une ligne du centre avec des vétérans comme Condon, comme Sturm, tu aurais pu dire à Owen Beck, ta place est à Laval, va continuer ton développement, puis va aider le Rocket. Par contre, mes collègues sur le plateau à RDS disaient, ben, en même temps, tu donnes à Owen Beck le goût de vivre une série ou une course aux séries dans la Ligue nationale, parce que c'est ça qu'il vit présentement. Il y a les deux pieds dedans. Fait que là, je ne sais pas où vraiment, où moi je me situe. Je ne suis pas assez expert en développement de jeunes joueurs pour être capable de dire qu'est-ce qui est le mieux pour le jeune homme. Ce que je sais, c'est que présentement, tu as le minimum d'attaquants, tu as le minimum de défenseurs, et tu dois te rabattre sur les joueurs qui sont prêts à aller au combat d'ici le retour à la maison dans une semaine.
Pierre, si on sort du Canadien de Montréal, selon toi, qui a gagné cette période d'échange-là dans tous les mouvements qui se sont faits à ce moment-ci?
Ben, moi, je pense que c'est dur d'établir des gagnants, mais je vais essayer de te les mettre par rivalité. Parce que ce qui se dessine...
Ben oui.
Non, mais c'est parce que... Ben, c'est ce qui se dessine. Non, mais regarde, ce qui se dessine, exemple Véro, dans l'association Ouest. Parce que là, Minnesota est troisième dans la centrale. Je pense que c'est la place de Colorado. Ben, si tu places Colorado troisième dans la centrale, c'est une première ronde, imagine-toi, Dallas-Colorado. Qui est à Dallas maintenant?
Là, t'as Rantanen qui s'en va là.
Mikko Rantanen. Colorado, je vais te faire le petit bilan que j'ai fait en onde tantôt. Tu as les joueurs suivants qui se joignent à l'équipe. Brock Nelson, Ryan Lindgren, Jimmy Vesey, Jake Drury, Martin Nechas, Mikael Bäcklund, Scott Wedgwood, Charlie Coyle. Puis là, j'en évite quelques-uns qui sont peut-être des réservistes. Ça n'a aucun sens. Alors donc, on a refait le visage de l'Avalanche en perdant Rantanen, et jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien pour l'équipe. Du côté de Dallas, ben, c'est pas au volume, mais c'est à la qualité maintenant. Et là, avec un Rantanen soulagé, qui a l'argent qu'il veut, c'est 1 million par tranche de son dossard, 96 millions, et c'est le dossard 96. C'est donc, pour moi, deux équipes qui viennent de se frotter les mains. Transporte ça dans l'Est. Très bonne chance d'avoir Floride et Tampa en première ronde.
Mm-hmm.
Regarde les acquisitions ciblées de la Floride avec Brad Marchand, le dernier en séquence, Seth Jones, le gardien Vanecek, Nico Sturm, pour peaufiner au centre et un gardien auxiliaire comme Kekkonen.
Clairement, les Panthers veulent récidiver, là.
Oui, mais regarde du côté de Tampa. On a libéré des choix de première ronde. On avait ciblé Yanni Gourde du côté de Tampa. Oliver Bjorkstrand sera aussi un excellent vétéran pour aider l'équipe. Alors, je préfère voir les gagnants à l'intérieur des rivalités. C'est difficile de départager qui vraiment a eu le dessus. Je pense qu'il va falloir attendre le début des séries pour trancher le débat.
Du point de vue de... Toi, tu voyages avec le Canadien. Cette période-là, la période des échanges, est-ce que tu sens un stress au sein de l'équipe? Est-ce qu'il y a des joueurs qui se disent « Hey, peut-être que c'est mon dernier voyage quand je suis justement en route vers Edmonton? » Parce que, bon, il restait deux matchs avant la date limite, là. Ou est-ce que vraiment c'est business as usual puis on va l'affronter si ça arrive simplement?
Oh, écoute, c'est stressant pour tout le monde. J'ai réalisé quantité d'entrevues quelques jours avant la date limite des transactions. La dernière en séquence, c'était avec Christian Dvorak. Et les joueurs ne se défilent pas, mais les joueurs, la plupart du temps, sont très honnêtes. Ils n'aiment pas cette période-là. C'est sûr que ceux qui sont plus jeunes, signés à long terme, savent très bien qu'ils sont, entre guillemets, intouchables. Mm-hmm. C'est une réalité. Mais les joueurs autonomes, vétérans, qui n'ont pas de contrat, qui n'ont pas reçu de proposition de la part de l'équipe, là où on arrive à la date limite des transactions, c'est sûr qu'ils sont soucieux. Ils sont soucieux pourquoi? Ils sont soucieux de savoir où ils vont aboutir. Est-ce que ce sera pour une équipe au moins à la hauteur peut-être d'une finale de Coupe Stanley? Si le joueur en question est père de famille, s'il a une conjointe et les deux, c'est encore plus difficile. Mais je vais te répondre par l'inverse. Marc et moi, on a pris l'ascenseur par hasard avec Jake Evans le soir libre à Edmonton le mardi soir. En 20 secondes, on a tout compris comment ce jeune homme-là était bien dans sa peau.
Il était soulagé,
soulagé, serein, heureux. Il regarde le match incroyable qu'il a disputé hier. On a beaucoup parlé de Matheson et de Gallagher à des moments précis hier, et avec raison. Mais Jake Evans a connu une rencontre qui justifiait. C'est comme s'il avait voulu justifier à lui et à la direction du Canadien la prolongation de l'entente. Alors, c'est pour moi, c'est gagnant-gagnant quand on arrive là. Mais pour revenir à ta question de base, bien sûr que les joueurs sont préoccupés. Cela dit, et je disais à Denis à propos de Brad Marchand la semaine dernière, l'important pour moi, c'est qu'on garde les vétérans susceptibles d'être intéressants pour d'autres équipes, qu'on les garde dans le coup, qu'on les tienne informés, qu'on en fasse partie prenante jusque là où tu peux en faire partie prenante d'une décision éventuellement pour que le joueur soit à l'aise. À l'aise. Non, il ne sera jamais à l'aise, mais que le joueur soit moins, disons, déboussolé par une transaction à une autre équipe.
De ce que tu as pu voir, Pierre, dans les dernières années, comment ça se passe quand il y a transaction, justement? Puis bon, là, c'est pas le cas pour le Canadien, mais qu'il y en a un nouveau qui s'en vient ou il y en a un qui part ou...
En deux matchs, là?
Oui, bien c'est ça. Comment ça se passe au niveau de l'équipe? Parce que j'imagine que ça doit être émotif. À quelque part, j'en parlais tantôt avec Max Pivero, puis je me disais, Colin, tu sais jamais quand tu pars, quand tu restes pour un bout de temps, ça me semble, ça doit être challengeant dedans, là.
Allez écouter les propos de Brady Tkachuk aujourd'hui. Deux joueurs des Sénateurs, dont Brady Tkachuk, aux larmes de voir partir Josh Norris. Là, je te donne une partie de la réponse. C'est serré une équipe de hockey, Audrey. Je vais te donner d'autres exemples. J'en ai vécu de toutes les couleurs dans ma vie. J'ai vécu à Boston, Michael Camilleri, qui jouait le match. Il est au banc, il n'est plus au banc.
C'est vrai.
Il part en deuxième période. Il est échangé pendant le match.
C'est spécial, ça, là.
Je vais t'en donner une autre. C'est à Philadelphie, c'était Metropolis, si je me rappelle bien. Il est parti du vestiaire des Flyers, il a traversé dans le vestiaire du Canadien.
Oh mon doux!
C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est qu'à un moment donné, un joueur n'est pas dans séance d'entraînement. Tu apprends qu'il ne joue pas, parce que non, il n'est pas échangé, mais il est susceptible d'être échangé. C'est une autre facette. Il y a de multiples histoires qu'on peut raconter comme ça. Qui déshumanise un peu cet aspect du hockey. Et c'est déchirant, je répète aujourd'hui, là, les jeunes, les Sénateurs. Écoute, Stützle, Brady Tkachuk et Josh Norris, c'était des co-chambreurs, des co-locataires quand ils sont arrivés pour rebâtir la concession des Sénateurs. Ils ont le cœur brisé aujourd'hui. Puis évidemment, du bout des lèvres, ils disent « Ah, ben Cousins s'en vient, on va l'intégrer, puis Dennis Gilbert aussi. »
Parce que tu peux pas te réjouir, là, tu viens de perdre des coéquipiers.
Ils vont être bienvenus. Voilà.
Et ça,
je dirais que c'est peut-être plus la magie du hockey par rapport, disons, à la NFL, où tu as des alignements de plus de 60 joueurs, par rapport au baseball, où c'est un sport hyper individualiste, avec la somme des talents. Moi, pour moi, c'est ce qui m'attache beaucoup au hockey. C'est tout le côté humain, le côté équipe qui entre vraiment en ligne de compte. Alors, et c'est pour ça que quand on dit, il y a plein de joueurs chez le Canadien qui sont heureux que le noyau soit, pas le noyau, que la composition de l'équipe reste la même. C'est pas de la frime, c'est pas du chiquet, c'est du ressenti par les joueurs.
C'est ça qui explique, parce que là, on va sortir des échanges, mais depuis le retour de la pause, on a comme droit à un Canadien version période des fêtes, quasiment 2024. Je comprends qu'ils n'ont pas affronté les plus grosses équipes, mais on sent que tout ça s'est resserré un peu, que tous les joueurs se sont élevés, Pierre.
Bien sûr, se sont élevés sur le plan individuel et se sont élevés sur le plan collectif. Et le premier qui a pris ça en main, c'est le capitaine, Véro.
Incroyable, hein?
Nick Suzuki est vraiment un leader exceptionnel présentement. Et il est un leader à sa façon. Il n'est pas rah-rah-rah, il ne le sera jamais dans sa carrière, mais il choisit de prêcher par l'exemple sur la patinoire. Et son jeu déteint sur celui de Cole Caulfield, qui, attention, devient de plus en plus complet comme joueur et de plus en plus leader, lui aussi, à sa façon. C'est pas encore le monstre à deux têtes qu'on connaît à Edmonton, mais ça commence drôlement à ressembler à un leadership à deux têtes, si tu me permets l'expression. Les autres facteurs, donc sur le plan individuel, je commence par lui, mais sur le plan collectif, il y a des efforts individuels comme celui de Gallagher en quittant le banc des pénalités hier. Je sais pas si vous vous rappelez de la séquence. Le Canadien se retrouve en double infériorité numérique. Gallagher est le premier à revenir dans la mêlée. Réussit une bataille individuelle exceptionnelle pour mettre fin à l'autre pénalité du Canadien. Et le tricolore s'en est tiré sans but accordé à l'adversaire. Donc, sur le plan individuel, c'est comme si tout le monde décidait de contribuer à sa façon. David Savard bloque encore plus de tirs. Mike Matheson s'est défoncé pendant presque 30 minutes hier, particulièrement brillant contre Connor McDavid. Donc, ta question ou ton affirmation, elle est tout à fait juste. Ça se voit sur le plan collectif, mais ce sont les individus qui, par leurs actions, ont une influence et déteignent sur le plan collectif.
À quoi on peut s'attendre pour le reste de la saison? Parce que là, ça se stabilise. Là, on rentre pour de vrai là, dans la bataille pour les séries. Hein?
Oui, bien là, écoute, le Canadien joue des matchs dans l'Ouest. Donc, on ne parle plus de match de 4 points là, jusqu'à la fin de semaine prochaine. Pas celle qui commence, celle de la semaine prochaine. Donc, on parle de matchs qui sont en valeur absolue. Un peu comme hier, c'est malheureux de ne pas avoir le point bonus.
Non, mais toutes les autres équipes ont perdu.
Oui, puis c'est pas trop grave, ce sont les Oilers qui le ramassent, tu comprends ce que je veux dire.
Ouais.
Le Canadien n'aura pas d'affrontement direct avec un rival direct avant le 18 mars contre les Sénateurs d'Ottawa.
Oh, donc, qui vont très bien ces temps-ci.
Bon, ben, c'est-à-dire qu'ils vont aller probablement bien encore parce que Brady Tkachuk est de retour. Et là, ben, Josh Norris est parti, mais ils vont espérer que Dylan Cousins fasse le travail. Mais en principe, oui, c'est une équipe qui va bien. Difficile d'établir où va Columbus et où va Détroit. Ce sont des équipes un peu énigmatiques. Donc, le Canadien doit d'abord et avant tout mettre le focus sur ses résultats en valeur absolue d'ici la fin du voyage dans l'Ouest et commencer à penser à ses adversaires directs à partir du 18 mars. Puis la base est très simple. On a fait le calcul hier. C'est 20-21 points pour le Canadien, là, à peu près, pour assurer... pour espérer là, vraiment de façon sérieuse d'entrer en série comme équipe repêchée. Alors, fais le calcul, c'est presque 2/3 de rendement d'ici la fin du calendrier.
Quelle saison vraiment le fun à suivre. Pierre, je vais te laisser dans les prochains instants, mais on a une question par texto qui est plutôt intéressante. On veut savoir maintenant qui les fans du Canadien vont pouvoir haïr chez les Browns.
On va s'en trouver, hein, inquiète-toi pas. Mais la question est très bonne, parce que Brad Marchand, évidemment, était détesté.
Depuis
Moi, c'est parce
longtemps.
que moi, c'est parce que je le connais personnellement et c'est à peu près la personne la plus agréable à côtoyer quand on est en dehors de la patinoire. Mais la question est très bonne. Peut-être que Denis pourra nous aider à son retour. Mais on va s'en trouver quelques détestables chez les Bruins de Boston. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas tellement Charlie McAvoy. Comprends, c'est parce que c'est un leader, c'est un excellent défenseur, puis il frappe fort, puis il frappe sournoisement.
C'est ça,
Alors
absolument.
peut-être que c'est.
Ceux-là qu'on haït, on les voudrait dans notre équipe.
Puis c'est un Américain en plus.
Bon, ben, écoute, si tu veux en rajouter, Max, il n'y a pas de problème.
Hey Pierre, on te laisse à tes occupations, à ton, en fait, ta couverture que tu fais du côté de RDS. C'était vraiment le fun de vous suivre aujourd'hui, même si c'est pas les journées qui brassent le plus comme à une certaine époque, comme tu le mentionnais.
Ouais. Ben, il faut regarder ça maintenant sur toute la période. Si tu regardes, je te dis, Véro, fais l'exercice, commence au 6 décembre, ça a bougé dans la Ligue nationale. Tout n'est plus concentré sur une seule journée, mais il y a eu des transactions massives qui ont été faites. Alors, on ne pourra pas dire avec le recul que ça n'a pas bougé, mais ça a bougé sur l'espace d'un peu plus de 2 mois. Alors, je vous salue, je retourne à RDS avec Marc.
Oui.
Et vendredi prochain, à la même heure, on sera à quelques heures de la première séance de qualification de la saison 2025 de Formule 1. Je termine là-dessus. Cadillac est confirmé comme 11e équipe aujourd'hui. Enfin, une 11e équipe pourra rentrer avec... En plein droit, en pleine conscience et en toute légitimité dans l'univers très, très fermé de la F1.
D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour toi ce matin quand j'ai vu qu'il y avait la nouvelle saison de Drive to Survive qui était sortie sur Netflix. Ton saut que t'aimes moyennement.
Ben, c'est correct, il n'y a pas de problème. Je respecte très bien l'importance de cette série-là et ça a vraiment relancé la
Incroyable.
F1
ouais,
pour les plus jeunes. Alors, au plaisir de se reparler vendredi. Particulièrement de ce début de saison.
J'ai hâte qu'on ait des nouvelles de Denis. Là, peut-être qu'il va t'en donner à toi avant de nous en donner à nous. Fait qu'on se tient au courant sur le petit deuil de Marchand.
Offrez-lui mes pensées réconfortantes si vous lui parlez.
Avec plaisir. Bye, Pierre.
Salut, au revoir. À la prochaine. Bon week-end.
À toi aussi. Pierre-Route qui était en direct de Calgary, on venait à peine de finir l'heure limite des échanges dans la Ligue nationale. Max, on n'a toujours pas eu les détails par rapport à l'échange de Brad Marchand du côté des Panthers de la Floride, d'ailleurs.
Absolument pas. Tout ce qu'on a eu, c'est Denis qui demande à rester en congé la semaine prochaine.
Un petit deuil.
C'est les seuls détails qu'on a.
Dans les affaires cocasses, puis ça valait pas de la peine d'en parler avec Pierre-Route, mais il y a le contrat chez Weber qui a été échangé. Puis c'est RDS qui souligne, tu sais, chez Weber est déjà membre du Temple de la Renommée. Ça fait déjà 2-3 ans facile qu'il ne joue plus. Mais aujourd'hui, il y a eu un échange entre Chicago et le Utah Hockey Club. Puis c'est une question de masse salariale.
Ouais, c'est très technique
contrat,
là, de passer même pas un contrat qui compte sa masse salariale réellement parce qu'il ne joue pas, parce qu'il est blessé. Mais dans les technicalités, des fois, ça peut avantager des équipes.
Mais c'était une anecdote sympathique. Dans la circulation, Audrey. Il
faut y aller parce qu'on est vendredi puis ça commence relativement tôt. On se souvient, Robert Bourassa, direction nord, à la hauteur du boulevard Hochelaga, la voie de gauche qui est bloquée. OK, c'est une panne. Dufresne-Montmorency, direction est à la hauteur de l'avenue d'Estimauville. La voie de droite qui est partiellement entravée. J'ai une panne de mon côté aussi. Puis si je regarde sur la carte, la capitale est, c'est à la hauteur de Robert Bourassa. C'est difficile. Direction ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne. Il y a des problèmes aussi à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Direction sud, là, ça a ralenti à partir, je vous dirais, de chemin Sainte-Foy si vous êtes sur Henri IV. Si vous êtes sur Duplessis, direction sud, ça ralentit à partir de Quatre-Bourgeois pour ce qui est de la 20. Ça roule quand même bien. Quelques ralentissements qui commencent entre Chemin des Îles et Taniata, évidemment, quoi que ce soit d'autre. 88-971-102 texto.
Au retour de la pause, il fait soif. On s'installe avec Dan et les suggestions bières chaloux.